Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Un symbole d'ouverture et de tolérance, le premier musée universel dans le monde arabe. Voilà les éléments de langage choisis pour accompagner l'inauguration du Louvre Abu Dhabi ce mercredi aux Émirats Arabes Unis, en présence du président français. Pour les Émirats, l'opération est un tremplin vers une plus grande visibilité sur la scène internationale. Côté français, on met d'abord en avant les retombées financières de ce partenariat, mais cette extension du domaine culturel national est aussi une façon de consolider les relations diplomatiques et commerciales dans la région. Une consolidation d'autant plus nécessaire que l'influence française y semble en recul, concurrencée par d'autres puissances, qu'elles soient européennes, américaines ou régionales. Et ce qui vaut d'ailleurs pour les pays du Golfe peut s'appliquer à l'ensemble du monde arabe, autrement dit aux pays du Maghreb et du Moyen-Orient. Deux rapports publiés en 2017 appellent justement à une redéfinition de la politique de la France dans cette vaste région, à la faveur notamment de l'enjeu sécuritaire. Alors la France a-t-elle besoin d'une nouvelle politique arabe ? Bien, c'est le sujet dont nous allons discuter ce soir jusqu'à 19h, en compagnie d'Agnès Levallois. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes consultante spécialiste du Moyen-Orient. Vous êtes une des auteurs du rapport Avicenne 2017, intitulé « Maghreb, Moyen-Orient, une priorité de politique étrangère pour la France ». Pour discuter avec vous, l'auteur de l'autre rapport que j'ai évoqué dans cette introduction, Stakim El-Karoui. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes essayiste, fondateur de la société de conseil stratégique Volentia, et le rapport que vous avez écrit pour l'Institut Montaigne, c'était en août dernier, s'intitule « Nouveau monde arabe, nouvelle politique arabe pour la France ». Notre troisième invité est au téléphone en Arabie Saoudite, il s'agit de Peter Harling, bonsoir. Alors je ne sais pas si Peter Harling nous entend. Peter Harling est fondateur du centre de recherche Synapse, qui a longtemps été chercheur pour l'International Crisis Group et qui parcourt le monde arabe depuis des années. Pour l'instant, on ne l'entend pas. On va essayer de le récupérer. La liaison téléphonique, ça va être un petit peu compliqué. Alors, je vous propose, pour l'instant, à tous les deux, Hakim El-Karoui et Agnès Levallois, d'entamer cette discussion sur l'actualité de ce jour, l'inauguration du Louvre à Abu Dhabi, qui est présentée comme un outil de la stratégie diplomatique des Émirats pour peser peut-être un peu plus, en tout cas, pour être plus visible sur la scène internationale. Est-ce qu'à l'inverse, on peut dire que c'est aussi une bonne opération diplomatique pour la France, une façon d'utiliser son soft power, Agnès Levallois?
Oui, c'est très important pour la France d'avoir conclu cet accord avec les Émirats. Et cet accord s'inscrit dans une relation avec les Émirats Arabes Unis qui est une relation ancienne. C'est une des relations les plus anciennes de la France dans les pays du Golfe, puisque lorsque la Fédération des Émirats est née en 1971 avec Sheikh Zayed, le père de l'émir régnant actuel, il a délibérément choisi de s'appuyer sur la France parce qu'il y avait le souvenir du protectorat britannique, donc il souhaitait changer d'alliance, et que l'Arabie Saoudite, elle, était complètement entre les mains de Washington, des États-Unis. Et donc, Sheikh Zayed a véritablement conclu cette volonté d'une relation privilégiée avec la France, un premier accord de défense qui est signé dès 1977. Et donc, on a vraiment une relation avec les Émirats qui est ancienne, dont on ne parle pas beaucoup. Alors, on en reparle aujourd'hui avec le Louvre, mais pendant des années, ces dernières années, on parlait beaucoup plus du Qatar, on parlait beaucoup plus de l'Arabie Saoudite, alors que cette relation est une relation ancienne, avec l'inauguration de la base militaire aussi à Abu Dhabi en 2009. Donc vous voyez qu'il y a quand même tout un tas d'éléments qui ont permis à cette relation d'être une relation vraiment forte et qui se conclut, j'allais dire aujourd'hui, avec ce Louvre à Abu Dhabi. Donc dans un autre domaine, le domaine culturel, on sort de la relation plus militaire et stratégique. Et donc c'est très très important, je crois, pour la France, parce que ça lui permet aussi d'avoir cette présence, d'avoir cette existence dans la région, en dehors des contrats d'armement dont on parle beaucoup, ou alors du côté plus les produits de mode et de luxe que l'on exporte. Donc là, je pense que ça permet vraiment de montrer que la France a cette capacité à pouvoir offrir autre chose. Et même si la relation a été compliquée, hein, entre les équipes françaises et émiriennes pour la mise en place de ce partenariat qui aboutit aujourd'hui à cette inauguration, c'est une étape, je crois, très, très importante et d'affirmation au-delà des Émirats sur la région.
Une étape qui témoigne d'une forte présence, d'une forte influence de la France dans cette région, Hakim El-Karoui, ou bien est-ce que pour considérer que c'est peut-être un événement qui n'est pas forcément justement caractéristique de ce que serait l'importance de la France aujourd'hui dans le Golfe.
Nous, on a essayé d'objectiver tout ça en regardant les flux commerciaux, humains, financiers, militaires, etc. Ce qu'on voit, c'est que les Émirats, c'est important pour la France. La question, c'est est-ce que la France est importante pour les Émirats ? Et la réponse, elle est politiquement oui. La France est au Conseil de sécurité, c'est une puissance nucléaire, elle a une tradition dans la région. Mais la France est un acheteur absolument mineur sur le de l'énergie. La France est un fournisseur mineur en matière d'armement. Et la France n'a pas de capacité réelle, ni commerciale, ni politique profonde dans le Golfe. La preuve, c'est que quand il y a des problèmes entre eux, on voit bien, le président de la République a essayé de se mettre entre le Qatar et l'Arabie Saoudite au courant de l'été. Il a rapidement compris qu'il n'y avait pas de place.
C'est une place que la France n'a jamais eue, ou c'est une place que la France a perdue ?
Il n'y a pas un monde arabe pour la France. Il y en a quatre. D'abord, il y a quatre mondes arabes. Il y a le Maghreb, il y a l'Égypte, il y a le Proche-Orient, et puis il y a le Golfe. Et dans le Golfe, les gens du Golfe ont joué avec la France. Ils ont joué quand Obama a fait son accord avec l'Iran, François Hollande est venu, a été reçu par le GCC, etc. La France vend beaucoup d'armes, mais assez peu d'armes stratégiques. Finalement, les armes stratégiques, c'est la Rafale et c'est le Qatar. Il y a la base militaire d'Abu Dhabi, ça compte. Et l'Arabie Saoudite, c'est beaucoup de volume, mais peu d'armes, peu d'équipements extrêmement sensibles. Donc on a une dépendance. Sur le plan militaire, le Golfe, c'est 50% des prises de commandes d'armement françaises. Mais par contre, on a une influence qui est limitée, qui est limitée en Arabie Saoudite, qui est un peu plus forte au Qatar à cause des Rafales, et quand même aux Émirats grâce à la base. Mais il y a une vraie disproportion.
Alors, on a réussi à joindre cette fois-ci Peter Harling, qui se trouve en Arabie Saoudite, donc chercheur qui sillonne depuis de longues années, je le disais, le monde arabe. Je ne sais pas si vous avez entendu un petit peu le début de l'émission, Peter Harling, mais qu'est-ce que vous diriez, vous, de l'influence de la France aujourd'hui, alors en particulier dans les pays du Golfe, et puis après on élargira la question de ce monde arabe. Je ne sais pas si d'ailleurs le monde arabe est toujours une appellation qui est pertinente. Peter Harling.
Mais je crois que c'est une influence qui se réduit au fil du temps, mais tout simplement parce que la diplomatie française change. C'est une diplomatie qui reste très efficace sur un plan technique. On sait organiser des grands événements internationaux, on sait faire partie de processus diplomatiques extrêmement compliqués, on est bon pour ce qui est de la formulation de résolutions aux Nations Unies. Et puis on peut défendre un certain nombre de principes aussi, sur la base de ces valeurs, des équilibres, des règles qui structurent un système de gouvernance internationale. Mais ce système est déliquescent, et le plus grand problème de la France, c'est surtout le manque de moyens. Donc on est de plus en plus dans une logique de coûts. Alors COUPS et COUTS, on essaie de réduire nos coûts tout en réalisant des coûts comme celui très beau d'ailleurs qu'on vient de réaliser à Abu Dhabi. Mais je crois que ça se paye aussi sur la durée d'être toujours en train de réaliser des coûts sans investir vraiment sur une présence dans le cadre de relations qui soient réellement équitables.
Bah, attendez, Peter Harling, vous dites que la présence et que les moyens ne sont pas présents, mais il y a quand même une présence diplomatique qui est importante de la France et au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.
Ben, vous avez beaucoup d'ambassades, c'est-à-dire qu'on a un réseau qui est extrêmement fourni, un des plus fournis au monde, mais chaque ambassade a de moins en moins de moyens pour ce qui est des investissements, par exemple, dans l'éducation des élites locales ou même dans les activités culturelles, les programmes de coopération bilatéraux. Donc on fait de plus en plus avec moi, même les 14 juillet sont de plus en plus financés par des partenaires commerciaux locaux. Et donc ça se traduit par une influence qui est décroissante, un pays qui est moins pris au sérieux. Et je pense que ça, dans le Golfe, c'est particulièrement sensible, au sens où on est toujours en train d'essayer de vendre des produits qui sont fabriqués en France, mais les relations commerciales saines, ça fonctionne pas vraiment sur cette base. C'est-à-dire qu'il s'agit vraiment de donner beaucoup en échange, de construire des relations où tout le monde y gagne, où on achète effectivement de l'énergie, où on propose de la formation, et pas simplement où on agit en VRP.
Agnès Levallois, cette moindre influence de la France, qui est peut-être aussi une moindre influence plus large que dans les pays du Golfe, puisque ce qu'écrit, alors je lui donnerai la parole juste après, Kim El-Khaoui, dans son rapport, s'agissant à la fois du Maghreb et du Moyen-Orient, c'est que le soft power français s'affaiblit, au profit d'ailleurs d'autres puissances européennes et régionales. Est-ce que, en tout cas d'abord, vous partagez ce constat, est-ce que ça n'est qu'une question de moyens, ou bien est-ce qu'il n'y a pas aussi l'effet d'une politique arabe de la France, qui est peut-être devenue moins lisible au fil des années, donc moins compréhensible, donc moins d'influence pour la France.
Oui, tout dépend d'abord de ce qu'on entend par politique arabe. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui une politique arabe ? Est-ce qu'il y a une politique arabe ? D'abord, je n'en suis pas sûre. Il y a d'abord la définition, il faudrait qu'il y ait la définition de priorité. Est-ce que nous sommes capables aujourd'hui, est-ce que la diplomatie française est capable aujourd'hui de définir des vraies priorités et de se donner les moyens qui permettraient d'accompagner ces priorités ? Moi, il y a quelque chose qui me frappe quand on parle de politique arabe dans la région. C'est qu'on sait que quand même, d'un point de vue stratégique et évident pour la France, c'est le Maghreb qui doit être une priorité de la politique. S'il y a une politique arabe de la France, c'est le Maghreb qui doit être prioritaire pour tout un tas de raisons. Et d'abord, une raison première évidente de proximité et de lien très fort que l'on a en France avec les différents pays du Maghreb. Or, quand on parle de politique arabe de la France, on a toujours tendance à finalement à penser très vite au Golfe, parce qu'il y a le côté contrat, c'est là où on estime qu'il y a de l'argent, où on peut faire des contrats. Et puis, il y a l'autre région à laquelle on pense, qui est le Liban, la Syrie, parce que traditionnellement, la France protecteur des chrétiens d'Orient, enfin toute cette rhétorique que l'on connaît. Et donc je trouve qu'il y a un décalage, si vous voulez, entre ce qui doit être, ce qui pourrait être et ce qui devrait être notre priorité, qui est ce Maghreb, et que quand on parle et quand on imagine cette politique arabe de la France, on ne parle finalement très peu du Maghreb, et on parle d'autres régions pour lesquelles on n'a pas forcément justement les outils, parce qu'on a, on a du mal à se projeter dans cette région, parce qu'on continue justement à parler de ce monde arabe.
Peut-être. Mais parce qu'il y a la crainte... Il y a la crainte que ça soit considéré comme une forme de politique d'ingérence, notamment à l'égard de l'Algérie. Il y a quand même un passé extrêmement douloureux avec ce pays.
Donc
c'est peut-être un peu plus compliqué que pour d'autres pays.
Oui, bien sûr que c'est plus compliqué. Mais je crois que si on veut être cohérent, il faut aussi qu'on sache qu'est-ce que l'on veut, qu'est-ce que l'on attend et où sont nos intérêts et pourquoi on a envie d'avoir une politique et pourquoi on se doit d'avoir une politique privilégiée avec cette partie de la région. Je crois qu'aujourd'hui, il y a vraiment cette définition des priorités qui me paraît indispensable et que moi, je ne vois pas encore de façon claire dans la politique, mais c'est pas récent. Depuis des années, je trouve que on s'intéresse à un dossier, on y va. La Libye, pendant quelques temps, il y a eu cette préoccupation pour la Libye, on y est allé. On n'a pas l'impression que tout a vraiment été étudié de façon claire, carrée, pour savoir pourquoi on y allait, qu'est-ce qu'on veut y faire, avec quels moyens on y va. Puis après, il y a autre chose. Et donc voilà, je trouve que ça manque de cohérence et d'une stratégie claire vis-à-vis de cette région.
C'est une politique qui souffre d'un manque de priorisation. Kim El-Khaoui ?
Oui, parce que le problème du Quai d'Orsay aujourd'hui, c'est qu'il gère deux choses. Il gère l'héritage, il gère les urgences et les crises. Effectivement, ils ont moins de moyens. Ils ont moins de moyens sur place, ils ont moins de moyens aussi à Paris. Et une fois qu'ils ont géré les urgences et les crises, plus le quotidien, ils n'ont plus le temps. Comme par ailleurs, il y a beaucoup d'urgences, beaucoup de crises et un héritage qui est assez lourd à entretenir, on gère au fil de l'eau et donc les priorités sont dictées par l'agenda extérieur. Ce qu'on a essayé de faire, c'est remettre l'église au milieu du village et donc où sont les intérêts, mais en les quantifiant et en n'oubliant pas aussi
que... Ce qu'on a essayé de faire, c'est dans le rapport.
Et en n'oubliant pas aussi que, pour moi, la grande nouveauté de ces 15 et 20 dernières années, c'est que la France continue de rayonner dans le monde arabe, notamment au Maghreb. En fait, ce qui se passe, c'est qu'elle n'a pas réussi à prendre de part de marché là où elle n'était pas historiquement, et elle en a un peu perdu là où elle y était. Mais elle reste extraordinairement puissante, importante, centrale au Maghreb, et par contre beaucoup moins au Liban. Mais la vraie nouveauté, c'est pas ça. La vraie nouveauté, c'est que c'est maintenant le monde arabe qui influence la France. Et il l'influence par l'immigration, et puis il l'influence par le sujet qui est un des sujets politiques majeurs aujourd'hui français, qui est l'islam, l'islamisme, le terrorisme. Trois sujets différents. Et je crois que pour formuler une stratégie, il faut avoir en tête ces flux croisés. Il y a d'autres flux qui arrivent, c'est les flux migratoires. Bon, on fait comme si nous, Français, les Maghrébins, allaient gérer les flux migratoires d'Afrique, de la bande sahélienne. Ils font comme s'ils allaient le faire, mais ils vont absolument pas le faire. Et puis, on regarde le Maghreb. Le Maghreb, c'est un peu la poule et le couteau, parce que le Maghreb, ça n'existe pas. Dès qu'on parle du Maghreb, il y a les Algériens ou les Marocains qui sortent leur revolver. Et puis, il y a les Tunisiens au milieu, qui sont un petit peu perdus. Et la France, qui ne sait plus faire, parce qu'elle a peur, à cause de l'histoire. Elle a peur de s'ingérer. Et en même temps, au Maghreb, on reproche tous les jours aux Français de pas en faire assez. Donc nous, on a essayé de définir dans le rapport une ligne avec un objectif, c'est, pas de double standard. Parce qu'on est quand même les champions du monde dans la région du double standard.
C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire?
Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Je dis quelque chose aux Iraniens, je dis l'inverse aux Saoudiens. Je parle des droits de l'homme aux uns et je n'en parle pas aux autres, alors qu'on peut pas dire que la situation soit meilleure. Donc, le plus petit dénominateur commun, ce qu'on propose, c'est on va essayer de réduire l'incertitude. Le monde arabe est en transformation, il est en modernisation, ça crée des troubles très importants. On est imbriqué avec le monde arabe par le volet maghrébin, il faut réduire l'incertitude. Et ça, c'est un sujet régalien, c'est un sujet économique, mais c'est aussi un sujet de sécurité, mais c'est pas une prime aux dictateurs. Parce que ce qu'a montré l'histoire récente, c'est que les dictateurs, quand ils sont trop cynique, trop corrompu, trop imparfait, en fait, les systèmes tombent.
Peter Harling.
Oui, ben, je crois que je peux renforcer un certain nombre de points, notamment celui sur le manque de cohérence, de vision d'ensemble. Alors, je crois qu'il n'y a pas lieu d'avoir une politique arabe. Je crois que c'est une expression un petit peu désuète. On est effectivement face à un voisinage assez complexe. Et la France a développé un certain nombre de relations bilatérales avec les membres de ce voisinage, mais effectivement avec beaucoup de contradictions. Si vous prenez aujourd'hui le comportement de quelqu'un comme Sisi en Égypte, il commet des actes qui correspondent à peu près à ceux que commettait Assad quand on a réclamé son départ il y a quelques années, en termes de répression de la société civile, de punition collective exercée au Sinaï et de dérive autoritaire d'une façon générale. Alors que effectivement, soutenir un régime autoritaire dysfonctionnel à tout prix au nom de la lutte contre le terrorisme et surtout de la crainte de l'immigration, c'est créer les conditions d'une crise plus grave en Égypte plus tard. Et si un nombre relativement réduit de réfugiés syriens et irakiens ont pu faire trembler l'Europe, quid d'une crise dans le pays le plus peuplé de la région et de loin, et qui se trouve sur la Méditerranée. Donc on aimerait voir effectivement la France avoir par exemple une vraie politique méditerranéenne, développer des vraies propositions sur ce qui est de la gestion des flux migratoires, qu'effectivement on ne peut pas simplement sous-traiter à des pays comme le Maroc ou la Libye, qui ne sont pas mieux équipés que nous pour accueillir ces flux.
Mais est-ce que ça veut dire, Peter Harling, que vous considérez que par exemple la lutte contre le terrorisme ne devrait pas être déterminante pour définir ce qu'est la relation de la France avec les différents pays arabes ?
Je crois que la France est redevenue un acteur militaire, et pas simplement dans le pourtour méditerranéen, mais à commencer par l'Afghanistan, puis au Mali, et puis ensuite seulement en Libye, en Irak, et puis aujourd'hui un petit peu au Yémen. Et je crois que la France est finalement redevenu un pays qui exerce une capacité de projection militaire, acquiert une expérience qui est certainement utile pour les armées, mais au fond ça répond à aucun des problèmes fondamentaux que pose la radicalisation, que ce soit à domicile ou à l'étranger. Il s'agit effectivement de veiller à ce que des projets de société relativement fonctionnels se mettent en place.
Agnès Levallois.
Ce qui est clair, c'est qu'on est quand même face à une situation aujourd'hui qui est complètement différente. La région a subi des bouleversements quand même absolument considérables maintenant depuis des années. Alors, il y a évidemment les révolutions arabes. Et j'ai l'impression qu'on a du mal, face à ces bouleversements, à prendre le temps. Et ça rejoint ce que disait Hakel Karaoui tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a les urgences du Quai d'Orsay. Les diplomates sont le nez dans le guidon à essayer de gérer les crises les unes après les autres. Alors que là, on est face à une situation, une région qui est en train de changer fondamentalement. Totalement, avec des évolutions qu'il faut qu'on arrive à prendre en considération, avec des changements aussi d'interlocuteurs. Je crois que c'est quelque chose de très important. À qui on s'adresse aujourd'hui dans cette région? Est-ce qu'on a toujours nos mêmes interlocuteurs avec lesquels on avait l'habitude de traiter, qui sont des gens avec qui on a une relation depuis toujours et qui est assez confortable finalement, parce qu'on parle le même langage, on se connaît depuis très longtemps, donc on peut se parler, sans faire toujours, je suis prudent dans ce que je dis, faire l'effort d'aller regarder aussi d'autres personnes, d'autres interlocuteurs interlocuteur qui nous permettrait de mieux appréhender ce qui est en train de se jouer. Et on le voit bien avec l'Arabie Saoudite aujourd'hui. Tous les réseaux qu'on avait en Arabie Saoudite ont été complètement chamboulés parce qu'il y a un changement, parce qu'il y a un nouveau prince héritier
qui fait le ménage
de façon absolument radicale. Enfin, bon, Peter qui est sur place pourra nous en parler beaucoup mieux que moi, que nous. Mais c'est vrai qu'on voit bien là, dans ce cas-là, que la France est un peu perdue parce que tous les interlocuteurs qu'elle avait dans le royaume jusque-là ne sont pas forcément des interlocuteurs avec lesquels Mohamed Ben Salman travaille aujourd'hui. Donc on a toujours cette difficulté aussi dans le cadre d'une définition d'une position ou de définition de position, parce qu'on est effectivement beaucoup plus dans des relations bilatérales, avec qui on travaille, avec qui on parle, et est-ce qu'on a cette agilité, j'allais dire suffisante, pour pouvoir aussi s'adapter à ces bouleversements, à ces évolutions, et non pas rester un peu contraint dans un cadre de pensée et de perception de ce qui se joue.
Mais quand on parle d'adaptation, est-ce que ça veut dire qu'il faut adapter s'adapter au changement d'interlocuteur, ou est-ce qu'il faut adapter la doctrine en fonction des pays? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut dire la même chose sur la question de la lutte contre le terrorisme, sur la montée du fondamentalisme à l'Arabie Saoudite et à l'Égypte ou à d'autres pays de la région, Hakim El Karoui?
Ah oui, je crois tout à fait. Si on veut être cohérent, il faut dire la même chose à tout le monde, de toute façon. Mais la nouveauté, c'est qu'on a des sujets communs avec tout le monde. La question du radicalisme, enfin, ou du terrorisme, c'est un sujet qui est commun au monde arabe et à la France. La question du fondamentalisme, qui n'est pas la même question que celle du terrorisme, c'est un sujet qui est commun. Et là, il y a une fenêtre qui s'ouvre avec le nouveau pouvoir saoudien qui dit qu'il veut lutter contre. Alors évidemment, on rigole, parce qu'on se dit, bah, vu ce qu'ils ont fait, vu leur passif, ils auront du mal à être crédibles. Mais il n'est pas impossible qu'il envoie des vrais signaux. Et là, à mon avis, il y a une main tendue, il y a une porte qui est ouverte, il faut s'engouffrer. Pourquoi ? Parce que la France a un rôle sur l'islam. Peter Harding parlait d'une politique de voisinage. Moi, je pense que ce n'est pas une politique de voisinage, la politique arabe. C'est une politique française. Parce qu'on est tellement imbriqué que c'est pas un sujet étranger. On a, sur le plan culturel, sur le plan sécuritaire, le monde arabe, c'est plus important que l'Europe pour la France. Si on prend les franco-arabes, il y a plus de franco-arabes que de franco-européens. C'est pas une question de voisinage, c'est une question interne. Et d'ailleurs, on le voit, y compris sur les questions algériennes, etc. Donc, il faut le penser comme une question interne. Et en se disant, il faut traiter les sujets qui sont nos sujets, qui sont aussi leurs sujets. Parce qu'on n'est plus dans la confrontation. Quand on traite du terrorisme avec les pays du Maghreb, tout le monde travaille ensemble. Quand on traite de la régulation des migrations, disons qu'il y a des discours communs. La réalité, c'est un petit peu autre chose. Et puis après, il faut, je crois, qu'on ne se trompe pas d'interlocuteur. C'est vrai qu'on a beaucoup trop parlé aux États, parce qu'on avait l'habitude. Les Allemands, eux, parlent aux sociétés civiles, financent les sociétés civiles. Et du coup, ils créent de la bienveillance pour l'Allemagne de façon très importante. Nous, on n'a absolument pas d'instrument institutionnel pour financer des associations dans le monde arabe. Donc on ne le fait pas. Et les ambassadeurs connaissent assez peu les acteurs politiques alternatifs, notamment les islamistes. On ne peut pas faire comme si les islamistes n'existaient pas dans le monde arabe. Mais le problème, c'est qu'on ne les connaît pas. Ou mal. Donc, il faut rebattre les cartes, mais avec toujours une obsession. La politique arabe, c'est la politique française. C'est l'intérêt français. C'est pas une politique extérieure. Ça n'a rien à voir avec nos sujets avec la Chine. Il y a plein d'enjeux importants. Mais, notamment avec le Maghreb, c'est chez nous.
C'est chez nous, c'est un discours qui est peut-être pas diplomatiquement correct.
C'est chez nous et eux sont chez nous. On vit ensemble. On a des éléments qui sont profondément communs. Il faut l'accepter. Et ça, c'est un vrai changement.
Sur cette communauté de destin, disons, Peter Harling.
Oui, d'ailleurs, c'est assez intéressant en termes d'évolution de la population au sein des affaires étrangères. Vous arrivez maintenant à un stade où vous allez avoir un certain nombre d'ambassadeurs qui sont d'origine tunisienne, marocaine, algérienne, etc., qui sont parfaitement intégrés au sein du dispositif, tout à fait acceptés, personne ne remarque leur évolution. Et c'est vrai que on a finalement beaucoup plus en commun, même si on a du mal à l'admettre, avec les pays du sud de la Méditerranée qu'avec des pays de Scandinavie, sur le plan culturel. C'est des pays finalement qu'on connaît beaucoup, beaucoup mieux, avec lesquels on a eu beaucoup plus d'échanges pour le meilleur et pour le pire. Je pense qu'un vrai problème, effectivement, c'est le facteur temps. C'est-à-dire que dans des ambassades ou dans des administrations où tout le monde est soumis à d'énormes pressions, doit traiter des volumes considérables de paperasse, que ce soit de la bureaucratie ou simplement des analyses, hein, ou ce qui peut être produit sur les médias sociaux. Personne n'a vraiment le temps de s'arrêter pour réfléchir et définir des axes, des priorités. Donc on retombe sur un certain nombre d'habitudes, et notamment ce besoin d'adopter une allure de puissance qui je trouve à la fois présente des avantages, puisque ça permet à la France de continuer à jouer un rôle un peu au-delà de ses moyens, mais cette ambition d'être partout et surtout d'être sur les gros dossiers, les dossiers un peu sexy, notamment liés aux négociations, à la violence, etc., ça fait que la France est absente là où on l'attendrait, par exemple en Tunisie ou au Liban, qui sont des dossiers plus petits, où il s'agit plus de gérer des questions économiques ou de transition politique. C'est moins spectaculaire. Alors la France est là, soutient un certain nombre de principes, etc., mais finalement ne s'investit pas à la mesure de ses moyens, qui restent réels dans une échelle comme celle qu'est le Liban ou la Tunisie.
France Culture, du grain à moudre.
Hervé Gardette.
La France a-t-elle besoin d'une nouvelle politique arabe? C'est la discussion que nous menons ce soir en compagnie de Peter Harling, Hakim El-Karoui et Agnès Levallois. Peter Harling qui évoquait la question libanaise. Parlons-en un instant, si vous voulez bien. Agnès Levallois, non pas pour parler spécifiquement du Liban, mais du rôle qui devrait être ou qui pourrait être celui de la France aujourd'hui avec cette nouvelle crise institutionnelle, la démission du Premier ministre Saad Hariri annoncée en Arabie Saoudite. Alors j'ai vu dans vos différents rapports que un des principes fondamentaux de notre politique étrangère et notamment de notre politique arabe, je garde quand même ce terme pour faciliter la discussion, c'était la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays souverains. Mais quand un pays comme l'Arabie Saoudite fait à ce point de l'ingérence dans les affaires intérieures, en l'occurrence du Liban, quelle devrait être, selon vous, la réaction, le rôle de la France?
Alors, s'il y a ingérence, effectivement, il y a ingérence de l'Arabie Saoudite au Liban, il y a ingérence de l'Iran au Liban aussi. Donc, on est face à ces deux puissances régionales qui se regardent au Liban et qui règlent leurs comptes par le Liban interposé.
Et la France, elle fait quoi? Elle compte les balles?
Donc, la France, ce qui est clair, en tous les cas, c'est qu'elle n'est pas à la manœuvre. En France, on a souvent l'idée que la France continue à jouer un rôle très important dans la politique libanaise. Et le fait qu'on ait reçu le général Aoun, président de la République libanaise, il n'y a pas très longtemps à Paris, a conforté dans cette idée qu'on pouvait jouer un rôle. Là, on voit bien qu'on ne joue pas de rôle dans l'affaire libanaise, que ce qui se gère sur ce dossier, c'est vraiment la relation entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, et que nous, on est là, on regarde avec toujours le même discours, à se dire qu'on veut évidemment la stabilité, qu'on veut éviter que la situation ne dégénère en conflit, et on ne peut pas dire autre chose que de dire qu'il faut parler avec l'ensemble des parties prenantes. Ce n'est pas à nous aujourd'hui, je crois en tous les cas, à aller dire c'est bien, c'est pas bien, ça se fait, ça se fait pas. On ne peut que parler avec les différents interlocuteurs, avec la complexité de ce dossier libanais que l'on connaît très bien.
Et donc avec l'Arabie Saoudite et avec l'Iran, de la même manière et de manière équilibrée?
Moi, je pense qu'il faut parler absolument avec ces deux puissances régionales et que je ne vois pas qu'on ait intérêt à prendre parti pour l'une contre l'autre. À mon avis, ça n'aurait absolument aucun sens et ça ne nous permettrait pas d'avoir un rôle quelconque si on prenait parti pour l'un ou pour l'autre. Clairement, on voit bien que sur tous les dossiers importants dans la région, ces deux pays se retrouvent en confrontation ou se font face. Et nous, on n'est pas là pour dire le rôle de l'Arabie Saoudite est bien là, il n'est pas bien là, l'Iran c'est bien là, c'est pas bien là. C'est de dire, nous, il faut absolument qu'on parle avec toutes les parties, et est-ce qu'on peut jouer éventuellement un rôle de médiation ou non sur ces différents conflits? Est-ce qu'on a une parole qui porte suffisamment pour que les uns et les autres aient envie de nous entendre pour faciliter les choses? Je ne suis pas sûre qu'on ait cette capacité.
Cela dit, c'est ce que disait Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle. La France doit parler à l'Arabie Saoudite et à l'Iran. La France n'a pas à s'ingérer dans le jeu d'influence de ces deux puissances. Ce serait une erreur. Est-ce que, à la faveur des premiers mois de la présidence d'Emmanuel Macron, Hakim El-Karoui, on peut constater justement le respect de cette position, disons, d'équilibre et de neutralité entre ces deux grandes puissances?
Oui, je crois, franchement. Il a soutenu le maintien de l'accord nucléaire avec l'Iran, qui était le gros sujet contre l'administration Trump. Il n'en a pas fait trop sur l'Arabie Saoudite, ni d'ailleurs dans un discours anti-iranien. Donc il est resté très neutre. Finalement, c'est peu exprimé sur la question. Il a fait un grand discours aux ambassadeurs fin août, où il disait la même chose. Il ne faut pas prendre parti entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Il a rappelé quand même la question israélo-palestinienne et la solution à deux États, qui est quand même le grand dossier disparu de la région. Il a essayé de faire l'intermédiaire entre les Libyens, et pour ça il a beaucoup travaillé avec les Égyptiens, c'est-à-dire les Saoudiens et les Émiratis, et puis quand même les frères musulmans. Et là, il y avait des contacts avec les Turcs. Donc, il a joué, je crois qu'il est vraiment dans cette logique d'équilibre.
Et est-ce que vous diriez que cette neutralité, en tout cas cette logique d'équilibre, c'est la condition sine qua non pour regagner de l'influence dans cette vaste région ?
C'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Nécessaire, parce que si on se met d'un côté, sachant qu'en fait, il y a un équilibre des forces, de toute façon, on n'aura rien, on n'aura aucune valeur ajoutée. C'est pas suffisant, parce qu'à un moment, il faut qu'on ait une carte. Et la carte, c'est pas seulement organiser des conférences. Il y a une conférence sur Israël-Palestine début janvier 2017. C'était sympathique, tout le monde était là, il en sortait rien, personne n'en attendait rien. Donc, il faut avoir des cartes. Moi, je pense qu'une des cartes, c'est l'islam. J'y crois vraiment, parce que la France a un rôle particulier en Europe, parce qu'elle est celle qui a une présence musulmane depuis longtemps, elle est celle qui a été le plus frappée par le terrorisme. Les autres pays européens sont tout à fait à la fois ignorants des réalités et puis complètement démunis. Les Allemands laissent tout gérer aux Turcs pour l'instant. Je pense qu'il faut prendre, il faut vraiment saisir la balle, ou la porte ouverte par Mohamed Ben Salman sur la lutte contre l'extrémisme, et en faire un sujet franco-arabe. Franco-arabe ou euro-arabe, tout le monde y a intérêt, personne ne sera contre, et en plus il y a des vraies choses opérationnelles à faire. Et on peut le faire en France et on peut le faire dans le monde arabe. On a un vrai travail théologique à mener. Les Saoudiens disent qu'ils veulent lutter contre l'extrémisme. Qui finance le travail théologique ? On a des islamologues, on a des imams qui sont prêts à faire ce travail-là. Eux, ils n'ont pas besoin d'argent pour travailler, ils ont besoin d'argent pour diffuser leur message. Ce qu'a fait la Ligue islamique mondiale, l'Organisation de la coopération islamique, etc., cette diffusion à échelle industrielle du salafisme, on pourrait imaginer de faire exactement l'inverse.
Mais est-ce qu'on a des islamologues, par exemple, au Quai d'Orsay, aujourd'hui ?
Non, mais les islamologues, ils sont pas dans l'État. Les islamologues, oui, sont des intellectuels.
Pour parler de l'islam, il faut quand même justement le connaître un minimum, et ça suppose...
Non. Il faut connaître, au Quai d'Orsay, ce qu'on leur demande, c'est connaître le monde arabe. Les islamologues, ils doivent connaître l'islam, les imams, ils doivent connaître la religion. On a des islamologues en France, on a des imams en France, quelques-uns, qui sont de très bon niveau. On en a beaucoup arabes qui viennent du monde arabe, en France, en Europe, en Allemagne, il y a une école d'islamologie très, très importante, en Angleterre, aux États-Unis. Il y a un travail à faire, il y a un creuset à créer. On pourrait le faire en France. Et on pourrait le faire en tendant la main à tout le monde, aux gens du Golfe. Les Émiratis sont très hostiles aux frères musulmans. Ils ont un pouvoir vaguement vertical. Ils essayent de mettre en place quelques structures. Chiche, travaillons ensemble. Et travaillons ensemble avec le Maghreb. Le Maghreb a exactement le même problème.
Qu'est-ce que vous pensez de cette idée, Agnès Levallois ?
Oui, on voit bien d'ailleurs, parce qu'on travaille, la diplomatie française, où les Français parlent beaucoup de travailler avec le Maroc, justement, sur cette histoire de l'islam, quel discours produire pour justement lutter contre la radicalisation. Donc il y a des pistes qui commencent à être abordées. Est-ce qu'elles le sont bien, pas bien ? J'ai pas suffisamment d'éléments pour en juger, mais en tous les cas, c'est vrai qu'on voit qu'il y a cette volonté. Mais on s'aperçoit que dès qu'on parle en France de cette question de l'islam et de la religion, il y a tout de suite quelque chose qui pointe et qui est d'une violence extrême et qui est extrêmement compliqué à gérer pour des politiques. Et donc je crois que ça nécessiterait un grand courage politique. Je crois que ce serait évidemment indispensable, parce que, et ça je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, je pense qu'il n'y a que la France qui peut le faire, qui peut initier quelque chose. Mais là, il faut qu'on ait un homme politique. Et est-ce que le président de la République a envie de prendre ce problème à bras-le-corps ? Il pourrait le faire s'il en avait l'envie. Mais c'est vrai que c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup de coups à prendre, et j'ai l'impression que pour l'instant, il y a cette grande difficulté, justement, parce qu'il y a ces coups à la clé à prendre et que les uns et les autres n'ont pas trop envie de se lancer dans cette opération. Alors que je crois qu'effectivement, en termes de travail pour nous, la France, vis-à-vis de cette région, c'est absolument indispensable. Parce que d'abord, il y a besoin, plus qu'un besoin, il y a une urgence à le faire.
Est-ce que vous considérez, Peter Harling, que la France serait légitime à s'emparer à ce point-là, justement, de ce sujet ?
Je dis bien la France, pas les autorités françaises.
Oui, j'entends bien.
Il faut que ça se passe en France. Mais ce n'est pas l'État, évidemment.
Peter Harling ?
Je nuancerais un petit peu au sens où la plupart de nos partenaires de l'autre côté de la Méditerranée ont beaucoup investi dans l'islam, mais dans un islam extrêmement médiocre et au détriment justement des institutions qui produisaient un certain savoir islamique, une certaine érudition. C'est toutes ces institutions, d'ailleurs, que ce soit dans le monde sunnite ou dans le monde chiite, sont en déliquescence. Donc, moi, je crois effectivement qu'il faut réinvestir dans l'enseignement religieux pour ce qui est du monde arabe. Pour ce qui est des sociétés européennes, je pense que c'est moins évident. Ce qui était frappant chez tous les, enfin, dans le gros des volontaires qui ont rejoint l'État islamique, c'est justement qu'ils reconnaissaient volontiers ne rien savoir de la religion. Il y a eu une fuite considérable, environ 1000 dossiers de gens qui ont rejoint l'État islamique et puis qui devaient remplir des fiches assez bureaucratiques, répondant à toutes sortes de questions. Et contrairement à leurs prédécesseurs dans d'autres mouvements djihadistes, ils n'avaient aucune honte à admettre qu'en fait, ils n'avaient aucune formation religieuse. Donc j'ai le sentiment que le problème se pose assez différemment des deux côtés de la Méditerranée. Et ensuite, je mettrai un petit peu en garde contre la thématique ou le paradigme de la guerre contre le terrorisme d'une façon générale, parce que c'est quelque chose que tous ces régimes reprennent à leur compte. D'ailleurs, les régimes, et pas seulement les régimes, vous avez un certain nombre d'acteurs non étatiques, des milices, le Hezbollah, des milices chiites en Irak, etc., qui font feu de tout bois et qui utilisent ce principe de la guerre contre le terrorisme pour légitimer tout et n'importe quoi.
Et ce voilà.
Alors oui, il y a un point qui sort un peu de ce qui vient d'être dit, mais qui me tient à cœur quand on parle de politique arabe ou de qu'est-ce qu'on pourrait faire vis-à-vis de ce monde arabe. Il y a un sujet, moi, qui me tient vraiment à cœur, c'est la question de l'enseignement de l'arabe en France. Je trouve que là, il y a un sujet qui, pour moi, est absolument essentiel, qui n'est pas traité comme il devrait l'être. Et moi, j'ai ce rêve que la langue arabe soit considérée en France comme n'importe quelle autre langue et qu'on puisse l'apprendre aussi naturellement que l'anglais, que le chinois. Aujourd'hui, le chinois est enseigné dans pratiquement tous les établissements, et on ne peut pas prendre l'arabe comme enseignement dans le secondaire en France, parce qu'il y a très peu de profs d'arabe, parce qu'à un moment, l'agrégation a été supprimée sur deux, le CAPES a été supprimé pendant certaines années, et je pense que ça, c'est un vecteur qui serait absolument formidable, de banaliser cet enseignement de la langue arabe, qui correspond à un besoin pour tout un tas de jeunes Français qui aimeraient apprendre cette langue, qui ne peuvent pas l'apprendre parce qu'on l'enseigne pas, et pour ceux dont les parents aimeraient que leurs enfants apprennent cette langue, se retrouvent dans des institutions qui sont des institutions dans lesquelles on n'a pas forcément envie d'envoyer nos enfants parce que c'est un enseignement qui n'est pas un enseignement au même titre qu'on enseigne l'anglais ou le chinois. Et je crois que ça participerait aussi d'une dimension absolument, pour moi, vraiment essentielle, moi qui ai appris l'arabe après le bac à la fac, de pas avoir pu l'apprendre avant parce qu'il n'y a pas de structure. Je trouve que c'est un élément, en tous les cas, essentiel aussi de notre politique à l'égard de cette région et du rôle que ça peut jouer d'avoir des jeunes Français, mais Français ou Français d'origine arabe, peu importe, mais qui puissent, s'ils en ont envie, apprendre cette langue, la parler et créer justement ce lien qui, par moment, n'existe pas alors que tout est fait pour qu'on puisse avoir des relations beaucoup plus normales et du coup apaisées.
Voilà, c'est effectivement un élément très important. On est presque au terme de l'émission. On a à peine évoqué la question israélo-palestinienne. Je voudrais qu'on termine là-dessus. Il nous reste 2 minutes. Ça fait pas beaucoup. Ça mériterait. Bon, on en a déjà fait des émissions spéciales sur le sujet. Hakim El-Karoui, est-ce que aujourd'hui la France joue encore un rôle sur cette question, au-delà des principes qu'elle énonce, à savoir un État palestinien, Jérusalem comme capitale? Jérusalem comme capitale commune.
Elle joue pas de rôle, mais à sa décharge, qui joue un rôle? À part Benjamin Netanyahou, les États-Unis qui sont sur sa ligne, personne ne joue de rôle parce que le sujet n'est plus à l'agenda. Il a disparu dans la guerre syrienne, dans le conflit entre les Iraniens et les Saoudiens. Et la question pour les Palestiniens, c'est comment le remettre au goût du jour. Enfin, comment le remettre en haut de la pile. Pour l'instant, personne ne sait comment faire.
Agnès Levallois.
Oui, alors il y a eu la tentative de la France, on a parlé tout à l'heure de cette conférence qui a été organisée en janvier, qui était un moyen de dire, alors c'était beaucoup plus à destination des Palestiniens et des Israéliens, de dire aux Palestiniens, on vous a pas oublié et on va essayer de faire quelque chose, donc on organise cette conférence.
C'était à la fin d'un quinquennat en plus, pas comme souvent.
C'était un peu le testament de Roland Fabius qui avait voulu faire cette conférence, donc voilà, sur le papier ça fait très bien, et concrètement évidemment ça n'a rien donné, parce que d'abord je crois qu'on a très peu de moyens, et on ne se donne pas les moyens, en tous les cas, de pouvoir agir sur ce dossier.
Vous allez faire le même effort de concision, j'en suis sûr, Peter Harling, pour conclure sur ce sujet.
se joue, c'est la transformation du leadership palestinien, avec un départ à venir de Mahmoud Abbas, des successeurs qui rentrent en lice, et puis aussi des évolutions de la part de Hamas pour s'adapter à un système de contraintes qui le force à un certain nombre de concessions.
Eh bien, merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé donc à cette discussion. Peter Harling, je rappelle que vous étiez au téléphone depuis l'Arabie Saoudite. Merci à Kim El Karoui et Agnès Levallois. On peut assez facilement, je crois, trouver vos rapports. Le vôtre à Kim El Karoui, c'est pour l'Institut Montaigne. Nouveau monde arabe, nouvelle politique arabe pour la France, politique arabe entre guillemets. Maghreb, Moyen-Orient, une priorité de politique étrangère pour la France. C'est le rapport que vous avez co-signé, Agnès Levallois. Rapport Avicenne. Voilà, merci à toute l'équipe du Grain, Fanny Richer, Antoine Tricot, Virginie Leduo, Antoine Dulster, Eva Pellerin. Émission réalisée par Véronique Villa, avec à la prise de son Pascal Baudin.